L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Il se définit comme un punk ou plutôt un ex-punk qui a fait son entrée à l'Académie des Beaux-Arts en 2022. Mais depuis cette élection, Hervé Di Rosa est resté fidèle à ses premières amours graphiques, la bande dessinée, avec Tintin et Spirou notamment. Dans les années 80, à Sète, sa ville natale, il fonde avec des amis un mouvement artistique aussi libre qu'explosif, la figuration libre. Alors à quoi ressemblent ses œuvres ? Eh bien imaginez-vous, de grandes toiles colorées, nerveuses, peuplées de figures de science-fiction et nourries d'images populaires. Alors dans l'envie de savoir, nous avons eu envie de comprendre comment naît un mouvement artistique, pourquoi rompre avec les codes établis. Hervé Di Rosa est aussi le théoricien de l'art modeste, une autre manière de regarder les objets et les cultures dites mineures. Nous avons la grande joie de l'avoir à notre studio à l'Institut de France. Bonjour Hervé Di Rosa.
Merci, bonjour.
Vous sortez tout juste de la séance hebdomadaire de l'Académie des Beaux-Arts qui se réunit tous les mercredis à l'Institut.
Tous les mercredis à 15h. Ouais. Là, comme j'étais à Paris, j'ai pu y aller. Sinon, je la suis en visioconférence.
Et là-bas, dans cette Académie, vous côtoyez énormément d'artistes avec qui vous travaillez sur plein de projets, notamment d'aide à la création.
C'est vrai que c'est une de mes passions, de mes envies depuis toujours, de ne pas être qu'artiste, quoi, d'essayer d'être dans le monde réel. Je l'ai fait quand j'ai créé le MIAM, on en reparlera. Je suis président de la Société des droits d'auteur de la DAGP encore pour quelques années, où on a établi tout un programme d'aide pour les artistes.
Alors d'abord, avant de parler de tout ça, je reviens à vos tout débuts, Hervé Di Rosa. Quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir artiste ?
Quand j'avais 18 ans, j'ai passé le concours pour les arts décoratifs, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Je suis rentré en 78. Et à ce moment-là, vraiment, je savais que ce que je voulais faire. Alors je ne savais pas encore, peut-être que c'était de la peinture, de l'installation. Sur le médium, bien que le dessin et la peinture
restaient quand même le point cardinal.
Toujours, c'était mes racines, quoi. C'est presque biologique. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je peux faire mille choses, mais que tout passe par ce que je peins, en fait. Même mes idées, elles passent par ce que je peins. Moi, c'est un peu touffu.
On va reprendre les choses chronologiquement. Parce que je le disais dans l'introduction, vous avez lancé avec des amis, sans vous en rendre compte en fait, un nouveau mouvement dans le monde de la peinture dans les années 80. À quoi ressemblait le monde de la peinture dans ces années-là ? Quel était le style qui prédominait quand vous sortez des Beaux-Arts, justement ?
C'est pour ça qu'il y a eu aussi des quiproquos, etc. Il n'y avait presque pas de peinture. Très peu de peinture. Les années 70, c'était principalement l'art minimal, l'art conceptuel. En France, il y avait support surface. Il y avait eu la figuration narrative qui était un peu une espèce de... qui était de la peinture avec Monorire, un siècle, etc. Mais qui était un peu très proche du pop art et très lié aussi au travail d'après-photo, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais un désir de peindre, vraiment de faire des images. Peut-être pas de la peinture, je n'avais pas cette prétention. Je n'ai toujours pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est de fabriquer des images et des images que je puisse échanger, que je puisse vendre. Donc, c'est ce que s'appelle des peintures. Et donc, à ce moment-là, il y avait aussi François Boiron et Robert Combas, qui étaient élèves aussi aux Arts Déco de Paris, et Rémi Blanchard, qui avait fait les Beaux-Arts de Rennes, qui est venu nous rejoindre plus tard. Et finalement, on s'est retrouvés un peu... alors que nous sommes toujours extrêmement différents. Il n'y a presque aucun rapport entre la part que ce soit de la peinture et que ce soit des images.
Et que vous venez tous de Sète ?
Non, il n'y a que Robert Combas.
Et vous-même.
Et on s'est connus à Sète, on avait 12 ou 13 ans, on allait à l'école faire des dessins le mercredi après-midi aux Beaux-Arts de Sète. Vous voyez, oui. L'école des Beaux-Arts. Donc vous voyez, ça date de très longtemps. Et donc c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Hein. En 81, il y a eu une exposition que j'ai faite avec Robert Combas à Nice, chez Ben Vautier, chez l'artiste qui est décédé l'an dernier. Oui. Et c'est un type formidablement généreux qui a invité des artistes à faire des expositions. Il avait monté une galerie chez lui, vraiment extraordinaire. Et c'est à ce moment-là qu'il a inventé le terme « figuration libre ». Pour nous dénommer.
C'est Ben, ce fameux Ben
Vautier, l'artiste Ben Vautier, qui nous a qui a inventé ce terme figuration libre et auquel aussi on a après se sont raccrochés beaucoup d'artistes. Après on a fait quelques expositions ensemble jusqu'en 84, une grande exposition figuration libre France-USA avec nos homologues américains. Et là j'ai rencontré Kissaring, Basquiat, Kenny Scharf, les graffitistes comme Crash, Futura et tout ça.
Mais à ce moment précis, qu'est-ce que vous aviez en tête ? Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement ?
On avait cette idée, parce que c'était comme une réaction aussi, vous savez, c'est comme presque une réaction adolescente aussi. Hein. C'était très lié au phénomène punk, parce que moi, c'était la musique que j'écoutais. D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoute très peu de musique, mais c'était une espèce d'influx de vie qui pouvait nous dire, on était à 7, on était de milieu prolétaire. Moi, ma mère était femme de ménage et mon père était employé SNCF. Donc, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Quand je suis arrivé à l'école des arts décoratifs, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui sortaient du même milieu social que nous deux. Voilà, et donc ça a été vraiment une prise de, comment je pourrais dire, une prise de position, vous voyez. C'était vraiment une prise de position contre, nous semblait un peu surfait. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui me semblent surfaites encore aujourd'hui dans l'art contemporain. Et plus ça va, et plus je me dis, il y a des pièces qu'au bout de 30, 40 ans, on ne sait plus ce que ça veut dire, on se demande pourquoi, alors que ça a été tellement honoré en son temps. Donc on s'est battu, et je me suis battu toutes les années 80 et 90, contre d'une part le marché qui commençait à corrompre un peu tout, et l'institution qui était, enfin, moi qui m'a plus bloqué qu'autre chose, quoi, jusqu'à récemment, hein, je veux dire. D'accord. Mais ce qui n'a pas été, donc c'est vrai, on peut le dire, on était assez punk même après, dans la démarche, vous voyez, dans la démarche d'être libre, de ne pas faire ce qu'on demande, de pas, etc.
Mais en parlant de peinture, justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas vos œuvres, est-ce que vous pourriez nous en décrire une? Je vous ai imprimé, mais alors vous n'êtes pas du tout obligé de vous tenir.
C'est difficile, vous savez, si je peins, c'est parce que je n'écris pas. Sinon, j'écrirais. Alors, là, c'est des grandes peintures des années 80 où j'avais inventé toute une série de personnages.
Alors, celle que vous tenez, comment elle s'appelle?
Ça s'appelle Magic Battle, par exemple.
En 83.
Toute une série de personnages. Et là, je vois que... Oui, là, j'étais à New York. Et là, bien sûr, je rentre... Je lisais beaucoup de comics, mais avec deux auteurs primordiaux qui sont Jack Kirby et Steve Ditko. Jack Kirby, c'est celui qui a inventé les Quatre Fantastiques, les Avengers, Thor et tout ça. Et Steve Ditko, c'est celui qui a dessiné le premier Doctor Strange. Et là, c'est vraiment une espèce d'hommage à Doctor Strange où il va tout le temps dans des mondes magiques et tout ça. Et donc, on voit un anneau de feu, une spirale à l'infini, la porte verte qui permet de passer par d'autres univers. Il y a beaucoup de spirales. Quand je regarde ça, ça me fait rire parce que je l'ai faite il y a 40 ans quasiment. Il y a plus de 40 ans.
Et vous remplacez même parfois les toiles par des morceaux de carton, c'est ça?
Ah, mais tout à fait. Au début, j'avais des moyens financiers extrêmement limités. J'ai de la chance qu'au bout de 2 ans aux arts décoratifs, à 20 ans, j'ai commencé à vendre mes peintures. Donc, je me suis dégagé de soucis matériels, puisque je n'ai jamais eu à faire autre chose dans ma vie. Moi, c'est la grande chance. À 45 ans de peinture, je n'ai jamais eu à être professeur, à faire quoi que ce soit d'autre que peintre. La peinture, c'est vraiment un élan de vie pour moi. Et puis, c'est ce qui me fait vivre dans tous les sens du terme, qui me fait vivre moi, ma famille, et qui me fait vivre intellectuellement et psychologiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus psychologiquement que ça m'aide qu'autre chose. Vous voyez, mais c'est une importance organique. C'est organique, voilà.
Et je reviens dans ces années 80, en dehors de la France, quelles étaient vos... Est-ce que vous aviez des sources d'inspiration, des artistes, des mouvements qui vous semblaient proches de ce que vous
faisiez? Bien sûr, j'étais fasciné par les États-Unis, comme tous les jeunes des années 70, parce qu'on était quand même en retard, on était à 7. Donc j'ai toute cette fascination pour l'underground américain, parce que c'est un pays terrible, terrifiant. J'y habitais plusieurs fois, j'habitais à New York, j'habitais à Miami plus tard aussi, dans les années 2000. C'est un pays terrifiant, qui est sans pitié. D'ailleurs, j'avais fait une peinture qui s'appelle Le Monde sans pitié. Non, c'est pas là. Mais et vous voyez, mais quand même, mais c'est eux qui arrivent à produire aussi les trucs les plus extrêmes. C'est pour ça que c'est la musique populaire et le rock américain m'a toujours beaucoup plus intéressé que le rock anglais, par exemple.
Et puis il y a aussi, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais l'énorme influence du comics.
Moi, je suis né avec la bande dessinée, donc je ne m'inspire pas de la bande dessinée comme des artistes comme Michel Stein ou Hérault qui citent la bande dessinée. Moi, la bande dessinée est une technique intrinsèque à la manière dont j'ai appris à peindre. Et donc, c'est des techniques et une manière de voir qui est intimement liée à ma pratique. Et ce n'est ni des bandes dessinées agrandies, ni des histoires complètes. C'est une espèce de couverture d'album qui n'existe pas ou d'histoire... La peinture, ce que j'aime dans les peintres, par exemple, flamands du 15e siècle, c'est que chaque peinture, comme on ne peut pas comprendre tous les signes à l'intérieur, on est très loin dans le futur, il y a plein de signes qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, ça laisse libre cours à votre imagination. Et moi, je pouvais rester des heures devant des reproductions de peintures de Bosch ou de Bruegel, parce qu'on peut tout s'imaginer. Et c'est ce que j'essaie, je dis bien j'essaie, de... de faire quand je peins.
Alors, il y a les peintres flamands, la BD américaine qui vous inspire. En fait, votre art s'ancre vraiment dans un espace géographique très large, dans un mouvement perpétuel. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous avez beaucoup voyagé.
J'avais envie de découvrir le monde. Et pour découvrir le monde, comme je déteste voyager, je déteste me balader, je déteste faire du tourisme, j'ai trouvé une manière de fabriquer, de faire des ateliers dans chaque endroit où j'allais.
Et là,
j'ai commencé à partir sur le continent africain. J'ai commencé
au Ghana,
etc., etc. Et ce qui me permettait de découvrir autre chose et d'avoir des projets précis à faire, quoi. Après 30 ans autour du monde, où j'ai quand même visité beaucoup de continents et surtout, peut-être pas beaucoup en nombre de lieux, mais à chaque fois, un vrai travail avec des gens, un vrai souvenir où j'ai vraiment appris. D'ailleurs, les œuvres qui restent du Ghana, du Cameroun, du Vietnam, etc., du Mexique, c'est les scories presque du vrai travail qui est une espèce d'essai de rencontre et de comprendre comment fonctionne l'autre. Et moi, c'est ce que tout mon travail, c'était ça, en fait. Et je m'aperçois qu'en fait, le monde va un petit peu à l'envers. Et donc, après, j'ai appris des techniques artisanales comme le tressage de câbles de téléphone, comme l'appliqué, la laque avec l'incrustation de nacre. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, là, je fais ce que j'aurais peut-être dû faire étudiant, je retourne au Louvre.
C'est vrai.
J'ai pas allé au Louvre depuis 30 ans. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, c'est pas fait exprès finalement, mais je me dis qu'après un voyage géographique, là, je fais un voyage dans l'histoire un peu, dans l'histoire de la peinture occidentale.
Alors, je ne sais pas si c'est le fil conducteur de vos peintures, Hervé Di Rosa, mais ce qui marque beaucoup dans votre style, ce sont les couleurs très vives que vous utilisez à chaque fois.
J'ai fait beaucoup de peintures en noir et blanc aussi, en gris, j'en ai fait en marron aussi, mais c'est vrai que on me connaît plus pour mes couleurs.
On dit que c'est souvent aussi peut-être le sud, là où vous avez grandi.
Oui, le personnage truculent du sud, tout ça, ça c'est un peu caricatural, mais enfin, on ne peut pas faire autrement.
Ouais.
Avec l'accent que j'ai, de toute façon, c'est très difficile. C'est toujours été très difficile d'être pris au sérieux.
Mm.
C'est pour ça, en plus, je fais une peinture qui n'a pas l'air sérieuse, mais en fait, qu'il est. Il y a même temps, ce que j'aime aussi, c'est que des gens qui ne connaissent pas l'art contemporain, qui n'ont pas vraiment de connaissances, puissent avoir aussi
un
rapport.
Pour certaines personnes, l'art contemporain peut sembler trop
et puis d'abord,
inaccessible.
Et je le comprends. Et j'ai l'impression que je suis assez pessimiste là-dessus. Parce que j'ai l'impression...
Sur quoi ?
Sur l'art contemporain qui devient de plus en plus difficile. Même pour... on a intérêt d'avoir de sacrées références pour certaines expositions aujourd'hui. Et le désintérêt, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt croissant, alors que moi j'ai vécu dans les années 80 vraiment un intérêt pour l'art contemporain incroyable.
Et c'est justement pour ça que vous avez créé le MIAM. Le MIAM, c'est le Musée International des Arts Modestes, qui est situé à Sète. Alors il faut qu'on s'arrête 2 minutes quand même là-dessus. Comment on pourrait le définir ? C'est un musée qui est à la frontière de l'art contemporain et de l'artisanat ?
On va fêter les 25 ans en novembre. Je peux vous dire que ça a été un vrai challenge parce que tu es vraiment un lieu, en fait c'est un centre d'art contemporain, c'est pas un musée, c'est pas vraiment un musée. Les expositions qui s'y passent, on fait 1 à 2 expositions par an dans le musée ou hors les murs, et à chaque fois c'est une expérience, c'est une réflexion sur les rapports entre l'image populaire, l'image savante, la création des artistes, pourquoi certains sont, on ne les voit jamais. Donc c'est un lieu aussi pour faire voir des artistes qu'on voit très rarement. Il y a un lieu pour vraiment trouver le contact entre la personne qui ne connaît pas l'art contemporain, le grand public et les créateurs.
Et alors ça marche ? Comment le musée attire son public ?
Donc on a inventé, j'ai inventé des méthodes un peu, des méthodes enfin, à travers les objets, enfin, à travers les objets, les images desquelles tout artiste s'influence, parce qu'il y a quasiment tous les artistes ont à un moment donné puisé dans les arts populaires, les arts modestes, dans la culture du quotidien. Et grâce à ces objets, ces images, on peut arriver à attraper les gens et à les amener devant des œuvres qui peuvent être difficiles. Ça peut être des morceaux de néon, ça peut être un morceau de toile. Vous voyez, ce n'est pas forcément des peintures. Voilà, et donc, ce lieu est très important parce qu'il étudie certaines formes de création. Comme là, récemment, on a fait une exposition sur l'art commercial, sur l'art qu'on vend dans les supermarchés. Personne n'a fait ça. Ça fait 30 ou 40 ans que je m'intéresse au pourquoi et au comment de cette affaire, puisque ça, c'est quand même des peintures. Elles sont vendues, c'est un chiffre d'affaires qui doit être, j'en suis sûr, qui dépasse le chiffre d'affaires de l'art contemporain aujourd'hui, puisque c'est vendu sur tous les bateaux de croisière, dans toutes les galeries marchandes, etc. Et donc, il y a des ateliers, des artistes et tout ça. Et il y a une histoire aussi. d'une histoire qui est liée à l'histoire de la société de conservation. Donc, vous voyez, c'est très important pour moi. Ce lieu, c'est vraiment lieu où je crée des expositions qui sont comme des peintures.
Et ce musée-là, vous l'avez lancé, vous l'avez fondé en 2000 ?
En 2000, on l'a ouvert. C'est un musée municipal, c'est le musée de la ville de Sète. Et donc, je suis président d'une association qui a créé ce musée et qui assure tous les événementiels, les expositions, etc.
Mais alors moi, je me demandais, qu'est-ce qui va différer, qu'est-ce qui distingue ce que vous avez appelé l'art modeste de ce que vous faisiez avant, dans les années 80 ?
Ah, mais moi, j'ai jamais fait de l'art modeste. L'art modeste, c'est une manière de voir les choses. Mm-hmm. Ce n'est pas...
C'est pas un genre comme
l'art brut. Vous voyez, l'art brut, c'est un genre que Dubuffet a inventé avec des choses très précises. Il fallait que l'artiste n'ait jamais eu d'éducation artistique, ni de volonté d'exposer, etc. Ce n'est pas non plus un mouvement comme l'art povera, par exemple, où c'était un groupe ou même la figuration libre. Ce n'était pas un mouvement. L'art modeste, c'est juste une manière. Je me suis aperçu qu'il y avait des marges de partout. Dans tous les territoires, il y a des marges que... On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas et ce qu'on ne sait pas classer, qu'on ne sait pas nommer, finalement disparaît.
Et alors, vous pouvez nous donner un exemple d'art modeste ?
J'ai beaucoup d'intérêt pour les figurines. Vous voyez, les figurines en plastique. Alors, ça peut être les figurines du merchandising, de films, de séries, de dessins animés, de publicité, de personnages réels. Mais ça peut être aussi des figurines religieuses, de religions très différentes. Toutes les figurines de dieux hindous, par exemple, ou les figurines de toutes les vierges qu'on peut imaginer, que j'ai trouvées en Espagne et à Séville en particulier. Vous voyez, y a vraiment une histoire à l'intérieur de ces objets qui m'interpelle. Et à la fin, vous voyez, par exemple, ces figurines que je collectionne, ce n'est plus des jouets parce que c'est pas donné, c'est très détaillé, etc. Mais je ne vois pas beaucoup d'enfants s'amuser avec ça. Par contre, je vois beaucoup de jeunes adultes et d'adultes collectionner. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est devenu ? C'est plus du jouet, donc c'est plus de l'art populaire. Est-ce que c'est une œuvre d'art ? Ça, on ne peut pas le dire encore. Donc, voilà, tout ce qui est inclassable, c'est de l'art modeste. Donc, l'art modeste apprend à regarder. C'est un regard, en fait, qui pousse à regarder les marges, les côtés, voir ce qu'on ne voit pas, parce qu'on nous présente tout le temps la même chose. Donc, voilà, c'est un lieu, un des rares lieux vivants et libres, finalement, en France, et qu'il faut défendre, quoi, que je défends, parce que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile.
Vous avez mis des jeunes artistes à l'honneur.
Oui, tous régulièrement. On a fait, j'ai dû exposer quoi, plus de 1500 artistes, et des morts, des vivants, de toutes des très connus, des pas du tout connus, des émergents. Là, en ce moment, il y a une exposition sur. Alors, ça, c'est une exposition qui a un succès terrible. On a triplé les entrées les trois premiers mois, un truc incroyable. C'est sur les papiers qui enveloppent les oranges. Nous avons reçu du musée d'art décoratif et d'un collectionneur particulier une collection de 200 000 papiers d'oranges, vous voyez, tous les papiers. Ouais. Mais de toute provenance, de tous les pays du monde. Ça se, bon, et principalement Méditerranée, Maroc, Israël, Espagne, Floride aussi, enfin, etc. Et donc, il y a toute une histoire.
Et donc,
c'est un groupe qui s'appelle Rovo. Et ils ont étudié pendant 2 ans toute l'histoire de ces papiers, d'où ils venaient, qui les faisait, quel est le graphiste. C'est ça, un graphiste modeste. Il n'y a pas de signature, on ne sait pas qui c'est qui a fait. Et certainement, chez l'imprimeur, il devait y avoir un maquettiste qui faisait plus ou moins la maquette du papier. Et d'un coup, il y a des images fascinantes qui apparaissent. Vous voyez, c'est ça l'art modeste. Sur des choses de rien qu'on ne regarde pas parce qu'on les froisse et on les jette. Et si on les regarde bien, qu'on voit en plus le contexte historique, ça se passe. On voit la richesse de l'explication sociale de ces papiers et de l'esthétique et de leur importance formelle. Voilà, c'est réussi. Et avec, comme toujours, bien sûr, des croisements avec des artistes contemporains comme Anthony Miralda qui a travaillé sur ce support dans les années 80, etc. etc.
Et là, c'est presque de l'artisanat que vous mettez en fait en avant avec cet exemple de papier.
Oui, mais justement, le Miam, on a été le premier musée au début des années 2000 à faire des expositions d'art contemporain réellement ce qu'on a appelé après transversal. C'est-à-dire, on pouvait bien sûr voir de l'art contemporain, mais aussi de l'art brut, de l'art populaire, de l'art modeste. Tout était dans un sujet coordonné, sans vraiment... être positionné par rapport à sa valeur historique ou à sa valeur financière. Uniquement la valeur que l'œuvre ou l'objet représente dans l'exposition, et dans l'idée de l'exposition. Et ça nous a permis de faire des rapprochements extraordinaires. Ce que je dis toujours, c'est que le jour où on n'aura plus besoin du Miam, on s'arrêtera. Jamais pensé que ça durerait autant, franchement. Remarquez, je n'avais jamais pensé que je serais académicien non plus. Hein. Mais vous voyez, et j'ai l'impression qu'on a encore besoin parce que il y a plein de choses que j'ai envie de voir que je ne vois pas, donc nous les faisons.
Alors en parlant d'académicien, justement, en 2022, vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts dans la section peinture. vous retrouvez aux côtés de peintres comme Nina Childress, Yves Milquant, Philippe Garrel, qui ont des styles aussi assez différents.
Gérard Garouste, Fabrice Hibert.
Oui, je ne les ai pas tous.
Ernest Pignon.
Il y en a un que vous aimez particulièrement
Oh, ben moi, vous savez, c'est Fabrice Hibert et Gérard Garouste qui m'ont appelé pour me demander
de me présenter votre candidature.
Qu'ils aimeraient bien que je sois avec eux, que j'étais actif, que ça aurait été bien, etc. Donc, ils m'ont convaincu. Et finalement, ça a marché. Et j'ai rencontré des... Bon, je connaissais très bien Ernest Pignon aussi avant.
Qui a été élu récemment,
parce que c'est un camarade. Donc je le connaissais depuis très longtemps. Et j'ai rencontré Philippe Garrel, par exemple, qui est un artiste extraordinaire. Et surtout, après, de rencontrer tous les autres sections et tout ça. On est des séances où il n'y a que des artistes très importants et beaucoup plus importants que moi. Et que je suis très, très honoré et très heureux d'être à leur côté. Les grands musiciens, les architectes, etc. Voilà, vous voyez, c'est un... On en parlait avec Ernest. Nous, c'est peut-être un plus long parcours que pour les autres, vous voyez. C'est Ernest Pignon, il vient aussi de Nice. Il vient aussi d'une ville lointaine. N'y dites pas street artiste, il meurt si vous lui dites ça.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ?
C'est un artiste. Parce qu'il a bien fait ça, bien avant que l'expression soit... Il a commencé dans les années 60, hein, vous savez. Il a quand même un certain âge. Et c'est un type extraordinaire. Mais lui aussi, il est d'un milieu très populaire de Nice. Et donc, c'est vrai, il me disait que pour nous, le chemin semblait quand même... était plus long quand même que pour d'autres pour arriver qu'est Conti. Vous voyez, on a quand même plus de chemin à faire.
Est-ce que selon vous, la peinture, elle attire encore les étudiants dans les écoles d'art aujourd'hui ?
La dernière foire qu'il y a eu au Grand Palais Art Paris, il y a quelques mois, mais c'était Art Paris, oui, il n'y avait que de la peinture.
Oui.
Tous les stands étaient remplis de peinture. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, on me dit ça, chaque design, on me dit le renouveau de la peinture. Nous, c'était le renouveau de la peinture. Moi, ça n'avait rien à voir avec le renouveau de la peinture. C'était le renouveau de tout que je voulais faire. Ce n'était pas que de la peinture. Et d'ailleurs, la peinture ringarde, ça existe et ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, des fois, je préfère une installation ou une photo qu'une mauvaise peinture. Je ne suis pas non plus borné à ce point-là. Mais c'est vrai que ma formation, ce qui m'attire, c'est vrai, c'est l'image. Et la peinture est une forme d'image aussi très forte, peut-être la plus forte et la plus puissante, la plus consistante, qui m'attire. Après, bon, c'est vrai que plein d'autres choses, mais la peinture ne peut pas mourir.
On mettra en ligne voilà, les œuvres dont on a parlé, bien sûr, pour les auditeurs curieux. Vous, est-ce que vous vouliez mettre une actualité particulière en avant ? On en a déjà parlé
ouais,
un
mais
petit
oui,
peu.
Oui, non, non, mais parce qu'en ce moment, il y a cette très belle exposition au Miam sur les papiers. Ça s'appelle Superbe Marché. Et le catalogue va sortir là dans quelques semaines.
D'accord.
Et il y a mon exposition personnelle au MUCEM.
C'est une expo en cours jusqu'à...
Oui, jusqu'au 1er septembre,
jusqu'au 1er septembre.
Et là, et l'exposition au Miam jusqu'à la fin de l'année.
Parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup Hervé Di Rosa.
Les podcasts de l'Institut de France.